Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, je vais leur laisser, c'est mon habitude, le soin de se présenter. Le principe, et c'est ce que je vous propose, c'est de leur laisser quelques instants pour se présenter, de lancer le débat avec des questions gentilles, rassurez-vous. Et ensuite de vous donner la parole. Sur ce thème qui est particulièrement intéressant, comment les nouvelles technologies ont-elles modifié l'ADN du polar? Nous accueillons à cette table ronde Odile Bouillet, Isabelle Curé, Claude Ecken et Laurent Poujol. Je vais commencer par vous, Odile Bouillet, je vous laisse le soin de présenter en deux minutes vous-même d'une part et votre roman d'autre part.
Bonjour, ça marche?
Oui. Ça marche.
Donc, moi je m'appelle Odile Bouillet, je suis scénariste et j'ai écrit un premier roman qui est paru il y a quelques mois qui s'appelle Le sang des bites en claque et qui relate en fait le premier laboratoire de police scientifique qui a été fondé à Lyon en 1910 par Edmond Locard. Alors avant, il y avait eu Bertillon, il y a eu évidemment le professeur Lacassagne, il y avait eu d'autres pionniers, mais Edmond Locard, c'est vraiment lui qui s'est, qui a révolutionné un peu les enquêtes policières, puisque justement on parle d'ADN du polar, et c'est lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'échange de Locard d'ailleurs, qui porte son nom, et qui est connu dans le monde entier, dans toutes les polices, on utilise cet échange de Locard, à savoir... toute personne d'ailleurs, pas seulement les criminels, mais toute personne qui se trouve dans un lieu, et encore plus quand, avec la violence du crime, emporte avec lui des poussières, des particules même presque invisibles, de la scène d'où il était, et en laisse aussi, il laisse un cheveu, un poil, etc. Donc c'est comme ça, Locard qui était un scientifique, qui s'intéressait justement à la criminologie, il a révolutionné en fait les enquêtes criminelles. Donc ça, c'est en 1910. Moi, mon histoire se passe en 1920, mais ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, parce que j'avais envie de parler des années folles, j'avais envie de parler plutôt que de la Belle Époque. Je suis passionnée par la Première Guerre mondiale, donc c'est une façon aussi d'avoir des personnages qui ont vécu la guerre, et voilà. Donc voilà, le sang des bites en claque, les débuts de la police scientifique.
Alors, nous accueillons donc aujourd'hui trois auteurs et puis un témoin scientifique que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Romans il y a déjà quelques années. Isabelle Curé représente aujourd'hui la sous-direction de la police judiciaire, la police technique et scientifique. Donc, je vais lui laisser le soin de présenter son service, le rôle qu'elle y joue, et puis la première question s'adressera à elle.
Bonjour à tous, donc Isabelle Curé, je suis ingénieure de police technique et scientifique. J'ai commencé ma carrière il y a une quinzaine d'années sur le terrain en tant qu'agent dans un service d'identité judiciaire, et depuis 2001 je travaille à la sous-direction de la police technique et scientifique, donc à Écully, à la division des études, des liaisons et de la formation, où après avoir été pendant quelques années formateur en identité judiciaire, je m'occupe maintenant du suivi du recrutement et des formations de l'ensemble des personnels scientifiques qui sont affectés dans les différents services au niveau national, que ce soit dans les services d'identité judiciaire, donc dans tous les commissariats, on va dire. À Romans, il y a des personnels scientifiques au commissariat, par exemple, et aussi bien que les personnels qui sont affectés dans les laboratoires de police scientifique pour réaliser des analyses, on va dire, plus scientifiques.
Voilà, donc une dimension scientifique, une dimension des pratiques actuelles. Laurent Poujois, on est dans un autre univers.
Bonjour, alors moi je suis auteur de polar, je suis auteur de science-fiction. Néanmoins, mon roman, donc L'Ange Blond, se situe et ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire un temps alternatif, c'est-à-dire qu'une période, on a changé un élément dans l'histoire et du coup notre histoire a évolué différemment. Donc dans mon univers, ça commence sous Napoléon, avec Napoléon qui réussit à envahir l'Angleterre. Donc forcément, la géopolitique du monde change radicalement. Et mon roman se situe de nos jours, où on est toujours dans un empire napoléonien, avec une descendante de Napoléon qui tient cet empire. Et c'est un thriller d'espionnage, donc dans ce qui se passe, qui est contemporain, en 2008, sur fond d'attentats contre l'impératrice, voilà, à l'occasion du bicentenaire. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est technologique. C'est vrai que moi, je travaille plus dans le domaine de la science-fiction, donc je vais faire évoluer des technologies qui sont qui sont en études, qui ne sont pas encore vraiment appliquées, et que moi je vais évoluer pour les rendre communes, comme notamment, moi j'utilise beaucoup, j'aime bien utiliser les nanotechnologies parce que ça me fascine. Mon héroïne n'hésite pas à user et abuser de la nanotechnologie pour faire avancer son enquête. Voilà.
Merci.
Je pense qu'on en développera plus ultérieurement. Claude ?
Merci à vous, Claude Ekel.
Précise peut-être que la nanotechnologie, c'est juste de la technologie toute petite, au milliardième de mètre. Ce qui change quand même la manière de concevoir la technologie. Là. Alors moi aussi je suis un auteur de science-fiction, avant tout, même si j'ai pu commettre quelques polars à mes débuts. Et évidemment je parlerai d'ADN, j'ai même écrit une nouvelle qui s'appelle « Les jardins d'ADN ». Et je parle aussi de nanotechnologie. Ça peut être pris parfois dans un sens polar, mais c'est plus pour réfléchir sur l'impact social des nouvelles technologies, pour voir quelle est la part d'humain qu'il peut y avoir encore face à une société qui devient de plus en plus technoscientiste. Voilà.
Bon, voilà. Nos quatre représentants, auteurs et scientifiques, se sont présentés. Vous voyez, vous imaginez, je pense, déjà les angles que peuvent prendre ce débat. La première question que je souhaite poser à Isabelle Curé, après je vous passerai la parole très rapidement, rassurez-vous, si les nouvelles technologies ont ou pas modifié l'ADN du polar, est-ce que les nouvelles technologies ont modifié l'ADN de la police judiciaire ?
Alors, l'ADN de la police judiciaire pris au sens très large, j'imagine.
Oui, ça.
Donc, comme disait Madame Audine tout à l'heure, la police scientifique, en fait, elle a commencé vraiment au début du XXe siècle avec deux grands hommes, on va dire, Bertillon à Paris et puis Locard, effectivement, à Lyon. L'un était un pur scientifique, Edmond Locard, tandis que Bertillon, lui, était un policier plutôt administratif au départ. Son rôle était de faire des fiches en fait relatives aux personnes qui étaient interpellées et conduites au dépôt avant éventuellement d'être emprisonnées, on va dire. Et le but était d'identifier les récidivistes. Donc il avait mis au point une méthode qu'on appelle anthropométrie, qui ensuite a été un petit peu mise à mal par tout ce que l'on a fait par rapport aux empreintes digitales et notamment avec le professeur Edmond Locard à Lyon. Pour autant, c'est Bertillon qui avait réalisé la première identification grâce aux empreintes digitales. C'était une affaire, l'affaire Schaeffer, qui a ensuite donné son nom à une émission de télévision il y a quelques années, Les dossiers Schaeffer, qui est animée, je crois, par, j'ai perdu son prénom, Poivre d'Arvor, le fils de celui qui est plus connu, de Patrick Poivre d'Arvor. À partir de 1910, effectivement, Locard a donc établi le premier laboratoire de police scientifique à Lyon. Ensuite, il y a d'autres laboratoires qui ont été créés à Lille, Paris, Toulouse et Marseille. C'est toujours le cas aujourd'hui. On est toujours sur une architecture avec 5 laboratoires de police scientifique au niveau national. Et le professeur Locard s'est bien sûr intéressé aux empreintes digitales, mais il a développé de nombreuses techniques de la criminalistique. Il s'est intéressé aux écritures, il s'est intéressé aux traces de sang, de sperme, de salive, aux cheveux. Donc il a, on va dire, lancé les grandes bases de la police scientifique moderne. Pour autant, on peut dire que c'est après 1985 et vraiment le décryptage de l'ADN que l'on a fait le grand pas en avant hein, au niveau des identifications par ADN. Et d'ailleurs, 1985 correspond aussi à la création de la sous-direction de la police technique et scientifique en France, puisqu'avant, il y avait des services de police scientifique, mais que l'on n'avait pas l'organisation que l'on a actuellement. Donc, ce qui explique que l'année dernière, d'un côté, la sous-direction de la PTS a fêté ses 25 ans et le laboratoire de police scientifique a fêté son centenaire. Donc, il y a eu des anniversaires de fêter à Écully l'an passé. Aujourd'hui, bien sûr, on parle beaucoup de l'ADN. Pour autant, l'ADN reste un élément d'enquête comme les autres. Hein. La police scientifique reste une aide à l'enquête judiciaire. Et on travaille également maintenant beaucoup avec les nouvelles technologies, non pas avec l'ADN du polar, mais nous, ce que l'on appelle les nouvelles technologies, sont toutes les technologies qui ont trait à l'informatique et aux traces technologiques. Comme vous le savez, bien maintenant, quasiment tout le monde a un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, voire les deux. Tout le monde a au moins un téléphone portable, un GPS, plein de domaines bien technologiques et qui sont pour nous aussi une mine de renseignements. Donc c'est aussi un des domaines que développe actuellement la police scientifique. Donc oui, pour répondre à la question de M. Grolia, les nouvelles technologies ont modifié l'ADN de l'enquête judiciaire.
Merci à vous. Odile Bouillet, est-ce que cette épopée, la naissance de la police scientifique, vous a apporté de bons clients pour votre roman? Alors, est-ce que c'était des hommes de l'ombre, comme ils le sont aujourd'hui, ou est-ce qu'ils étaient vraiment en première ligne, comme on le voit dans certains feuilletons américains que je préfère taire déjà
mais que je vais nommer.
Ne vous en privez pas. En clair, est-ce que ces initiateurs de la police scientifique avaient des égos importants ou étaient des hommes de l'ombre? Comment ça se passe dans votre roman?
Moi c'est un roman, donc c'est quand même de la fiction. Donc mon héros, c'est quelqu'un de, je pense, comme la plupart des héros des polars, c'est quelqu'un de torturé, de solitaire. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui se met en première ligne ni en avant. Maintenant, moi, je me suis vraiment inspirée donc, d'Edmond Locard, mais pas seulement. C'est-à-dire, je me suis, comme ça, un polar historique. J'ai tenté aussi de recréer cette société des années folles, de la fin de la Première Guerre mondiale. La France était totalement exsangue, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à la police scientifique? Edmond Locard était quand même un pionnier, un précurseur. Il ne faut quand même pas oublier qu'au début du siècle, la science, c'était avec la Première Guerre mondiale, en fait, puisqu'il y avait eu des expériences qui avaient été réalisées, il y avait eu des progrès énormes. Donc l'ADN du polar en était bouleversé. Quand on lit d'ailleurs Sherlock Holmes, d'ailleurs Edmond Locard, il s'est énormément inspiré de Sherlock Holmes dans ses enquêtes, puisque Edmond Locard écrivait comme Conan Doyle. C'était pas Conan Doyle, mais il écrivait des polars. Parce qu'en fait, Edmond Locard, on lui a dit, écoutez, c'est formidable tout ce que vous nous dites là, mais on va vous filer les combles du palais de justice, un bec besaine, et ben voilà, débrouillez-vous, quoi, puisque la science a raison, voilà. Et alors, il n'avait pas de moyens, il n'avait pas de budget, très peu. Donc du coup, il écrivait des polars, et avec l'argent que lui rapportait ses polars, il s'achetait du matériel pour son petit laboratoire, qui jusque, il me semble, dans les années 80, est resté dans les combles du palais de justice rue Saint-Jean dans le Vieux-Lyon. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Moi, j'ai vu des photos de l'époque. Je vais laisser parler mes confrères.
Alors, donc, un vrai personnage de polar, une vraie aventure qui repose sur des êtres humains. Et aujourd'hui, dans les pratiques quotidiennes, des évolutions importantes, notamment vers le numérique. Est-ce que la fiction peut se dissocier de la réalité? Est-ce qu'elle la rejoint? Est-ce qu'elle la précède?
Je ne sais pas s'il faut aborder les choses comme ça. Comme on dit, la fiction rejoint toujours la réalité, peut-être même que ça va dans l'autre sens également. Je ne sais pas si justement les nouvelles technologies ont réellement Changer l'ADN du polar, je pense qu'il ne s'agit que d'une poursuite et d'une continuité. Lorsque Conan Doyle racontait les aventures de Sherlock Holmes, on avait déjà quelqu'un qui agissait de manière très scientifique, très logique. Il y avait peut-être la science technologique à l'œuvre, mais il y avait aussi la science, disons, déductive. Hein, si penser d'une manière très logique, c'est ça la première démarche scientifique. On l'avait déjà chez Conan Doyle et puis chez d'autres.
Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'est apparu quand j'ai fait toutes mes recherches et quand j'ai écrit ce livre, je suis allée visiter, j'ai été accueillie à l'INPS par les amis d'Isabelle. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas tellement changé depuis Edmond Locard. C'est-à-dire, moi je trouve qu'Edmond Locard et son raisonnement a effectivement révolutionné à l'époque les enquêtes criminelles. Mais en revanche, au jour d'aujourd'hui, le raisonnement n'a pas changé. Ce sont les technologies qui évoluent, mais le raisonnement est le même. Donc, voilà.
Méthode, oui, déductive. À la limite, même, on pourrait dire que le profiler d'aujourd'hui, c'est l'aspect scientifique en sciences humaines, qui va avoir un aspect psychologique beaucoup plus évolué. Mais peut-être pour montrer aussi ce qu'a écrit Odile Bouillet et la fameuse mallette, on peut vous faire l'inventaire en lisant un petit extrait.
Oui, c'est la première mallette qu'Edmond Locard avait organisée pour ses déplacements sur les scènes de crime. Donc c'est tout nouveau, quoi, à l'époque.
Certaines zones du pré étaient détrempées, le soleil ne brillant que depuis 2 jours sur Lyon. Auparavant, il avait plu plusieurs semaines sans discontinuer, et cela n'avait pas aidé à la conservation du cadavre. L'enquête s'annonçait pipée et difficile. On ne nous facilite pas la tâche, pensa le commissaire Colbert. Afin de leur permettre de travailler, Salacan traça un cercle à 10 cm autour du cadavre pour en barrer l'accès. Il s'appliqua surtout par conscience professionnelle. Les badauds avaient de toute façon piétiné les rares indices. À force d'obstination, la préservation d'une scène de crime deviendrait, il l'espérait vivement, une routine obligatoire. En attendant, il s'échinait à montrer l'exemple. Il ouvrit la mallette en cuir où il rangeait méticuleusement ses ustensiles scientifiques et les étala par terre. Salacan était fier d'avoir obtenu le financement de cette trousse d'urgence dont l'idée lui avait été soufflée par ses années de collaboration avec le docteur Locard. Elle contenait tout ce qui était nécessaire pour les opérations sur le terrain, à la seule exception de l'appareil photographique. Une boîte hermétique à plâtre de Paris et des cuvettes de tôle empilées étaient astucieusement disposées dans le fond. L'une des cuvettes était destinée à recevoir l'eau. L'autre servait à gâcher le plâtre. Quiconque avait eu à faire des moulages de pas en rase de campagne savait combien il était précieux d'avoir avec soi tout le nécessaire. Dans le couvercle de la trousse, on trouvait une large case pour le papier vierge, destinée aux plans et aux notes, et en dessous, les fiches d'identité en blanc. Les multiples petits casiers fermés étaient autant de cavernes, fortes loupes, cire à modeler pour les traces d'effraction, diamant à couper le verre, bande millimétrée pour la photographie métrique, décamètre pour les levées de plans, papier citrate blanc et noir pour les transferts d'empreintes, crayon, couteau à plusieurs lames, tube d'encre typographique, rouleau de caoutchouc, plaque à entrée pour prendre les empreintes des suspects et des témoins, céruse et antimoine pour colorer les empreintes latentes, papier Joseph pour dissoudre les taches de sang intransportables. Cette trousse, et Salacan y veillait personnellement, devait être toujours prête et complète, de façon à ne pas avoir à se préoccuper au dernier moment de tel outil, et surtout pour ne pas avoir à regretter sur le terrain l'absence d'un objet irremplaçable. Virez-moi tous ces crétins qui sont en train de piétiner les indices. La voix grave du commissaire Victor Colbert gronda au milieu du brouhaha. Grand et élégant, malgré une large carrure, unijambiste, des lèvres charnues, Victor Colbert s'était rendu indispensable en confondant brillamment un dangereux criminel. Une enquête difficile, juste avant la guerre, qu'il avait résolue avec l'aide du professeur Salacan. Puis, volontaire sur le front, il était revenu en 1916 de la Somme, amputé de sa jambe droite. Pugnace, il avait convaincu ses supérieurs de lui permettre de reprendre du service malgré ce handicap. Personne n'y avait d'ailleurs trouvé à redire. La police avait besoin de bons flics. Une denrée rare.
Merci.
Merci à vous. Donc on voit comment s'organise l'apparition de la police technique et scientifique. Alors, puisqu'on est aussi dans la science-fiction, comment est-ce qu'elle s'imagine dans un autre temps, dans un temps parallèle?
Vaste question. Elle s'imagine comment la police ou en fait la technologie? La question, elle est là, quoi. Parce que moi, je ne prends pas forcément par l'option police. C'est une enquête, elle a des moyens technologiques qui sont mis à sa disposition. Mais moi, ce que j'aborde aussi, c'est les rapports qu'il peut y avoir entre cette technologie et la société, et aussi les risques et les dérives que ça peut représenter. C'est-à-dire qu'on a parlé, donc c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de nanotechnologie, de technologie de l'information aussi. Vous parliez tout à l'heure des téléphones portables, des ordinateurs, du GPS et tout ça. C'est bien pour la police, effectivement, mais où se situe la liberté individuelle dans tout ça? Et c'est un peu ce que nous, on essaye en science-fiction de mettre en lumière. C'est-à-dire, on s'en sert. Moi, c'est un thriller, donc voilà, je m'en sers. Mais sous-jacent, il y a quel est le danger d'être fiché, d'être suivi, d'être tout le temps localisable à tout moment. Dans quelle mesure on peut fouiller à l'intérieur de ton esprit, dans ta vie personnelle, partout, quoi.
Oui, je suis assez d'accord avec cette manière de voir. En science-fiction, on ne va pas obligatoirement travailler sous l'angle de l'élucidation d'une affaire criminelle, du polar, mais plutôt sur le type de dénonciation des dérives possibles de certaines technologies qui, s'attachant à découvrir des choses sur l'individu, puisque c'est quand même du renseignement que l'on essaie d'avoir à chaque fois, peut quand même être dangereux pour les libertés individuelles.
Ça va être curé, une réaction ? Donc on s'interroge donc sur les relations entre science et société. Comment est-ce que vous les mettez en scène dans vos romans? Donc elles ne sont pas forcément positives, elles vous interrogent. Quelles sont les relations entre vos personnages et les sciences et les techniques?
Je crois que ça dépend de l'histoire, de l'intrigue, et ça dépend également de la technologie qui est mise en œuvre. Je peux peut-être donner un exemple là avec une histoire qui ne parle que d'écologie, hein, sur la saison de la colère, c'est la Camargue inondée en 2050. On sait que l'État n'est pas décidé à surélever les digues ou à essayer de protéger la Camargue, elle est déjà d'ores et déjà condamnée. Bon, il faut savoir que c'est un milieu artificiel, donc de toute manière il reviendra à son état naturel. Et là-dedans, il y a bien eu une enquête policière, mais je le vois, moi, du point de vue de l'adolescent. L'adolescent, c'est lui qui est le révolté dans la saison de la colère, n'admet pas que les adultes lui disent comment se comporter de manière écologique, alors que ce sont précisément les mêmes qui ont bousillé la planète. Il en a d'autant plus marre que la personne qui, dans le coin, est en train de dire aux gens comment bien se comporter, est tellement sévère qu'il a pris un surnom, c'est facteur 4. Alors il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on a fait les premiers sommets sur l'écologie, on avait décidé de diviser les émissions de dioxyde de carbone par 4, un facteur 4. Donc le surnom de facteur 4 n'était pas forcément avantageux, et il parle de son père. Et depuis quelque temps, dans le bled où il habite, il y a des dénonciations qui sont faites avec des bombes de peinture, hein, des tags. Et c'est justement le fiston qui fait ça. Alors, je vais vous lire le passage, comme ça vous comprendrez comment on peut le mettre en scène et comment on met en scène ces histoires polices scientifiques. J'ai mangé la tarte tout en marchant, mon attirail balançant contre ma hanche au rythme de ma marche pressée. Un cylindre dessinait une bosse visible. À 200 mètres de chez moi se trouvaient les bâtiments techniques municipaux, protégés par un long mur d'enceinte. C'était parfait. J'ai sorti la bombe de peinture et j'ai commencé par tracer un banal facteur 4, un emmerdeur durable. Un peu plus loin, j'ai griffonné de la main gauche afin de masquer mon écriture en prenant soin de dessiner des lettres bien droites. Les payeurs ne sont pas les pollueurs, qui n'était pas de moi mais d'un humoriste ayant cessé de faire parler de lui aujourd'hui. L'aphorisme continuait de me plaire. La rage qui m'habitait n'était pas encore dissipée. J'avais l'intention de critiquer les prosélytes de la lutte contre le changement climatique qui nous pourrissait la vie, mais le climat se réchauffe, nos oreilles aussi, manquaient de clarté. Depuis qu'il nous rase coupant les cheveux à facteur 4 était trop long, j'allais me contenter d'un facteur 4 de mes deux quand une voix dans mon dos dit « Eh bien voilà, on a fini par te pucer !» Je me suis retourné, deux flics juchés sur leur vélo. L'un d'eux, avec l'oreillette et le micro en liaison avec le commissariat, tenait un drôle de boîtier électronique, pareil à ceux que les agents du gaz et de l'électricité utilisent pour relever les compteurs à distance. Les dents m'en sont tombées, l'ébahissement a tout de suite remplacé le visage hilar de celui qui venait de me reconnaître. J'ai souri à mon tour, pour reconnaître ma défaite. « Fini de jouer, mon gaillard !» fit l'autre en abandonnant son vélo, pour me passer les menottes. « Tu vas gentiment nous suivre. » À la seule pensée de ce qui m'attendait, j'aurais préféré être abattu sur place. Il était 3 heures passées lorsque je pus rentrer chez moi. Je me suis affalé sur le canapé du salon et suis resté de longues minutes immobile sans penser à rien. L'interrogatoire m'avait épuisé. Ce n'était pas tant les aveux qui avaient pris du temps, puisque pris sur le fait, je n'avais rien caché, mais l'obligation légale de prévenir mon père, lequel n'avait pas été facile à joindre à l'étranger. Je m'étais fait avoir comme un bleu. Au début, je pensais avoir joué de malchance en tombant sur une patrouille à vélo. Mais les policiers ne m'avaient pas pucé au sens figuratif du terme. Ils avaient effectivement eu l'idée de se procurer le code RFID des bombes de peinture. Ce n'était pas la première fois que les lecteurs à l'origine destinés à dresser la liste des achats sortaient des supermarchés. De tels modèles équipaient les véhicules des agences de publicité qui sondaient discrètement les résidents d'un quartier afin de perfectionner leur stratégie commerciale. Je savais que la police en était servie pour mener des enquêtes en analysant les emballages traînant sur les lieux d'un crime pour savoir où et quand les produits avaient été achetés. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils patrouilleraient avec un lecteur réglé sur le code d'identification des divers modèles de bombes de peinture jusqu'à être alerté quand le tagueur entrait en action. La prochaine fois, je penserai à vérifier s'il était possible de détacher la puce de la bombe.
Voilà comment
donc ça peut se produire, hein, à partir de RFID, d'enquête, et commencer à voir.
Mais c'est intéressant parce que je me posais la question justement en t'écoutant et en repensant à la thématique de cette table ronde. Je me disais, mais est-ce que tout ça ne change pas aussi l'ADN du crime en fait, et simplement des scènes de crime? Parce que moi je lis beaucoup de faits divers, je discute avec des policiers, je me documente. Et je m'intéresse de toute façon effectivement à l'univers, tout ce qui est police, justice, crime. Et c'est quand même extraordinaire de voir aujourd'hui les criminels qui utilisent ça aussi. Parce que c'est relayé par la télé, par la presse, par les romans, ils ont des infos. Donc il y en a qui vont jusqu'à mettre du sperme qui n'est pas le leur dans un spermatozoïde, pour faire accuser le voisin. Donc tout ça, c'est aussi... On ne peut pas, quand on écrit des polars, la SF j'imagine aussi, on ne peut pas l'oublier ça, que forcément on est au XXIe siècle. Alors moi j'écris, le polar que j'ai écrit là se passe au tout début du XXe, mais donc je me suis replongée aussi, c'est une façon de parler d'une époque. Tout à l'heure vous parliez de la société, c'est aussi, moi ce qui m'intéressait en écrivant ce polar, c'était aussi imaginer des personnages et... en créant une demi-douzaine de personnages, arriver à recréer la société des années folles. Parce que pour moi, c'est aussi ce qui m'intéresse dans l'écriture. C'est parler de la société, c'est parler des hommes qui la font, et avec tout leurs paradoxes et leurs ambiguïtés. Voilà.
Une réaction ?
Non.
Je pense qu'on peut maintenant aussi vous permettre d'apporter vos questionnements, vos réactions. J'imagine que vous êtes tous au moins régulièrement lecteurs de Polar. Quelles sont vos relations avec les personnages construits, offerts par les auteurs dans leur relation aux sciences, aux techniques? Ou est-ce que vous avez d'autres interrogations, d'autres questions à poser à nos intervenants? Le micro est à vous. Alors, la sonorisation de la salle est nécessaire, donc je vais vous demander de me faire un petit signe et je vous apporte le micro.
Est-ce que les techniques qu'on peut voir dans les romans sont réellement sélectivisées par la police?
Pas bien entendu.
Ah. Est-ce que les techniques que vous utilisez dans vos romans sont réellement utilisées par la police?
Oui. Enfin, pour moi, oui. En général, j'espère. Mais c'est vrai que moi, je suis scénariste au départ, et c'est vrai que je suis toujours étonnée parfois de croiser des auteurs qui ne se documentent absolument pas et qui du coup ça rend des scénars complètement surréalistes, c'est même plus vraisemblable, enfin, donc je trouve ça dommage, parce que moi ce qui m'intéresse dans l'écriture c'est aussi toute la partie se documenter, donc oui, moi c'est... Alors après, je comprends parfois pas tout, j'essaye de rencontrer les gens pour qu'ils m'expliquent, etc. Je suis pas scientifique, donc... je fais peut-être une ou deux erreurs, mais en tout cas, là, à l'INPS, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'erreur, donc je suis assez contente. Voilà.
Bien, nous, on écrit, avec Claude, on écrit de la science-fiction, donc on n'est pas obligé de se caler avec la réalité. Néanmoins, tant Claude que moi, on se documente énormément aussi, de façon à ce que nos futurs possibles soient crédibles. Donc, autant on va effectivement extrapoler sur des techniques qui existent, qui sont en train de d'être mises en place, mais on va essayer de leur donner un minimum de logique, un minimum de crédibilité, oui, je l'ai déjà dit. Voilà.
C'est sûr que les nouvelles technologies qui arrivent vont, on va obligatoirement jouer avec elles et voir dans quelle mesure on va pouvoir les utiliser, les mettre en scène. Donc forcément, ce sont des techniques qui n'existent pas encore, mais qui risquent fort d'arriver. Je pense que l'avoir montré avec l'exemple des RFID, c'est vrai que ça servira peut-être à payer ses affaires au supermarché sans avoir une caissière, mais à partir de ce moment-là, on sait exactement ce que vous avez acheté. Vous avez payé avec une carte, vous n'êtes même plus obligé de passer votre carte si vous avez votre carte d'identité sous forme de puce implantée sous la peau. Et à partir de ce moment-là, bon, ben c'est vrai que l'on peut suivre un individu un petit peu partout. Ça se fait dans certains pays déjà. Hein. Au Brésil, par exemple, on est assez prosélyte de ce genre de choses. J'ai discuté avec quelqu'un qui est très connu à la télévision, qui anime des émissions, et qui avait dit, moi, si je pouvais mettre une puce dans le bras de mes enfants, je le ferais. Comme ça, si jamais ils sont kidnappés, on pourra les retrouver assez facilement. Je dis qu'il avait vraiment tort, parce que si les ados ont envie d'être un petit peu en retard parce qu'ils ont un petit rendez-vous galant, eh bien, ils ne vont pas apprécier que les parents puissent les suivre comme ça du début à la fin. Alors voilà, bon, ce sont des méthodes de fichage qui peuvent se faire, c'est du George Orwell 1984. Et à partir de là, oui, on va vraiment extrapoler. Je n'ai pas lu d'extrait de ce que tu as écrit, mais on peut peut-être vraiment extrapoler aussi, ça va beaucoup plus loin.
Mais ce qui m'impressionne aussi, c'est, on va parler des technologies de l'informatique, de tout le monde à Internet, tout le monde va acheter sur Internet, tout le monde fait plein de choses sur Internet. Alors personnellement, je fonctionne plutôt en mode paranoïaque sur Internet, mais je suis stupéfait de voir des gens, quand on discute, à quel point les gens sont naïfs, en fait, laissent des informations. Ah mais je ne comprends pas, moi j'ai un exemple qui me sidère, c'est par exemple quand je reçois des mails et que les gens ont laissé en liste tous les gens auxquels ils vont envoyer les mails. j'ai dire des choses comme ça, c'est un manque de méfiance. Alors bon, je suis en mode paranoïaque, hein, clairement. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention à ce qui est fait et que les gens ont. Il y a eu un afflux de technologie qui n'est pas vraiment maîtrisé, enfin, qui sera peut-être peut-être plus par nos enfants quand même, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sans savoir, quoi. On utilise simplement, on n'en mesure pas les risques aussi.
Oui, j'illustrerai votre propos, Laurent, absolument. Et je vous donnerai quelques exemples qui vous feront frémir sur vos propres inattentions. Voilà, ça c'est pour tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les sciences, les techniques ou sur les différents ressorts de construction des relations entre polar, sciences et techniques? Pas de questions. Moi j'aurais une question pour tous les quatre. Dans les relations sciences, techniques, société, les relations hommes numériques sont une des vraies révolutions du XXIe siècle et surtout une des vraies révolutions non ressenties. Comment est-ce que quelque chose qui semble d'une telle banalité, en effet, on ne se pose pas la question des tenants, aboutissants, risques ou même bénéfices qu'elles peuvent apporter, comment est-ce qu'elles peuvent être moteurs dans une intrigue policière?
Je crois que là, ça dépend de l'art de l'écrivain et de ses techniques d'écriture. C'est à propos de la banalité, j'ai surtout envie de dire que toutes ces petites modifications du quotidien qui sont banales et dont on ne parle pas forcément le soir au journal télévisé sont beaucoup plus importantes et modifient la société en profondeur par rapport à, enfin, beaucoup plus qu'un événement très médiatisé qui sera une sorte de coup de tonnerre, parce que tous ces petits changements, bon, quand est-ce que nous avons eu le plastique, on n'en a pas dit, attention, le plastique arrive, nous utilisons du plastique à tous les niveaux de la vie, maintenant nous utilisons le téléphone, nous avons l'informatique, le téléphone devient portable, ce sont des petites révolutions qui se font très lentement, on ne s'en rend pas compte, et c'est avec ça, je pense qu'il y a un pouvoir de pénétration très fort, et qu'au bout d'un certain temps, on se dit, bon ben voilà, il y a eu un changement de paradigme, on ne s'en est pas rendu compte, et c'est autour de ça, peut-être aussi, qu'un auteur doit travailler.
Je vais attendre que les doigts se lèvent pour appeler le micro. Si les doigts ne se lèvent pas, je continue à animer, si vous le voulez bien, et si nos intervenants l'acceptent, le débat. Isabelle Curé, est-ce que le numérique est la prochaine rupture après l'ADN, ou est-ce que cette rupture a déjà eu lieu?
Rupture.
Ce qu'on appelle une rupture, c'est un grand changement, un changement d'ADN, une mutation, pardon.
Oui, ça fait déjà quelques années quand même que la police technique et scientifique se sert d'investigation numérique pour l'aide à l'enquête judiciaire. Maintenant, c'est vrai que c'est un domaine qui évolue très rapidement, donc qui demande aussi de notre part une grande vigilance. Et le but, c'est toujours d'avoir un petit peu d'avance, on va dire, en termes d'investigation, hein, des différents supports numériques, donc d'avoir un petit peu d'avance sur ce que peuvent penser les délinquants. Il y a des choses que l'on arrive à faire sur les supports numériques qui sont peu connus du grand public, dont je ne parlerai pas non plus moi aujourd'hui ici même. C'est un domaine sur lequel on communique peu, parce que justement, on peut encore avoir un petit peu d'avance sur la délinquance, parce qu'on a de très bons spécialistes chez nous, au niveau électronique et au niveau informatique. Je donne une petite indication, s'il y a des jeunes chez nous aujourd'hui ou s'il y a des parents de jeunes qui font des études dans l'informatique et dans l'électronique. La police scientifique recrute peu, mais dans les années à venir, si on recrute, ce sera dans ces domaines-là, peut-être davantage qu'en biologie par exemple, où on a recruté assez, de façon assez massive, on va dire, ces dernières années, justement par rapport au fait qu'on utilise de plus en plus l'ADN. Mais maintenant, on va dire que les recrutements en biologie vont toucher à leur fin. Par contre, effectivement, ce qui concerne l'informatique et l'électronique, les besoins sont de plus en plus importants. Et si avant, on faisait des investigations au niveau central à ECULI, on est en train de développer ces techniques également dans les services régionaux, tout simplement pour mettre au service des enquêteurs pendant le délai de la garde à vue, donc pendant les 24 ou 48 heures pendant lesquelles les personnes qui sont mises en cause sont à la disposition des services de police, eh bien de pouvoir mettre à la disposition des enquêteurs justement les résultats des investigations. Donc on développe au niveau régional ces investigations, notamment dans le domaine de la téléphonie et de la vidéoprotection.
Je vous laisse réagir. Vous pouvez aussi réagir dans le public. On va donner, si vous le voulez bien, la priorité au public, mais je ne vous oublie pas, rassurez-vous. Madame, la question est à vous. Vous parlez tout près du micro, s'il vous plaît.
Bonjour. Je voulais savoir, en fait, si tout ce que vous écrivez n'arrivait pas à inciter des criminels.
Je ne pense pas forcément que ce sera... Enfin, moi, j'aimerais bien, à la limite. Parce que moi, ça veut dire qu'ils nous lisent.
Oui, je pense, oui.
Parce que pour l'instant, je ne pense pas que le livre soit vraiment le vecteur avec lequel il y a l'imitation. Il y a déjà le cinéma, la vidéo, mais surtout, je vous dirais, il y a l'actualité. Lorsque l'on lit les journaux, lorsque l'on voit ce qui se passe à la télévision et qu'on vous dit comment telle personne a été confondue, je pense que les idées, elles sont partout dans l'air du temps. Je n'ai pas l'impression qu'il faille diaboliser d'une manière ou d'une autre n'importe quel support artistique, parce que ça déborde très largement de ce cadre-là.
Je pense effectivement que les reportages et les journaux télévisés sont une source très importante de renseignements pour les délinquants. Hein. Si vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours, pourquoi on a retrouvé un corps calciné au Puy-en-Velay hier? Pourquoi le corps il était calciné? Il y a quelques années, on ne parlait pas de corps calciné. Maintenant, à chaque fois, les corps ils sont calcinés. Pourquoi on retrouve autant de voitures brûlées? Parce que les gens veulent faire disparaître toute trace d'ADN et que c'était largement diffusé dans la presse, dans les journaux, que si on faisait brûler, on avait beaucoup plus de mal à identifier les corps. Ça reste, enfin, pour nous, ce n'est pas forcément un problème pour autant d'identifier un corps calciné. C'est un leurre par rapport aux délinquants. C'est sûr qu'on fait disparaître un certain nombre d'indices, mais pas le corps en lui-même. Voilà. Donc, je ne suis pas sûre, effectivement, qu'on puisse imputer la responsabilité de l'incitation au crime aux auteurs d'un roman policier.
Bien non lieu.
Je l'ai dit en plaisantant aussi. Un peu de légèreté.
La parole est ici. On y reviendra parce que je pense que c'est le rôle des médias est fondamental et je me permettrai de réagir par rapport à ça tout à l'heure également.
Je suis désolé pour le débat, c'est un petit peu dirigé et fermé comme question. Vous avez parlé donc de technologie que vous ne voulez pas... d'analyse numérique que vous ne pouvez pas diffuser. Question simple, ces technologies sont développées au sein de la police ou ce sont des technologies que vous récupérez auprès des industriels?
Alors il y a les deux, on fait du transfert de technologies, c'est-à-dire que bien sûr il y a des gens qui font de la veille technologique chez nous et qui font de la veille technologique, donc se tiennent au courant de ce qui peut être développé dans d'autres domaines et qui transposent chez nous. Parce qu'effectivement, notre métier premier, ce n'est pas de faire de la recherche et du développement. Malheureusement, on n'en a pas forcément les moyens. Et ça demande beaucoup de matériel de faire de la recherche et du développement. Ce n'est pas la mission première, on va dire, de la police. Par contre, il peut y avoir des partenariats. Il faut savoir aussi que la police française ne travaille pas toute seule. Il y a des groupes de travail avec des polices étrangères, donc, ou avec des universités ou autres. On peut accueillir aussi quelquefois des stagiaires, des thésards, des gens en contrat, hein, contractuel. Donc il y a une transposition de technologie et sur certains domaines, on va aussi faire un peu de recherche et de développement, notamment sur les supports endommagés ou autres. Voilà.
La question est ici.
C'était pas trop une question en fait, c'était pour répondre à quand vous avez parlé de la responsabilité par rapport aux criminels et aux écrivains. J'avais lu que chaque année aux États-Unis, les services secrets antiterroristes convoquaient un groupe d'écrivains, de scientifiques, etc., pour leur demander quelles nouvelles techniques allaient employer les terroristes pour faire des attentats. Par exemple, en septembre, il y avait un groupe d'écrivains qui avait déjà trouvé cette idée-là et qui pensait que ça, c'était probable. Donc, est-ce que vous pensez justement que vous pourriez être convoqué en France pour qu'on vous demande
À ma connaissance, on dit que 2012, c'est la fin du monde, donc on verra bien.
Là-dessus, j'ai une réponse. Alors, déjà, ça a déjà été le 11 septembre, ça n'a pas été prévu comme ça. Il y avait déjà un auteur de polar qui avait imaginé qu'un avion irait dans une tour. Mais après, lorsqu'on a regardé derrière soi, on a vu qu'il y avait pas mal d'auteurs qui l'avaient déjà utilisé. Ceci dit, de plus en plus, les auteurs de science-fiction sont maintenant sollicités pour mener des groupes de réflexion avec divers organismes. Ça a commencé avec l'Agence spatiale européenne qui voulait savoir si nous avions quelques idées pratiques pour aller dans l'espace, pour survivre dans l'espace, etc. Mais l'armée s'intéresse beaucoup à ce que font les auteurs de science-fiction, où tous les deux ans, par exemple, certains sont conviés pour réfléchir, par exemple, à la question de guerre urbaine avec un conflit qui se passe en milieu urbain, comment on ferait? On nous demande pas mal de choses comme ça. Les gens, après, ils acceptent d'y répondre ou pas, enfin d'y aller ou pas. Le Centre européen des nanotechnologies, Minatech, à Grenoble, a aussi fait appel à des écrivains de science-fiction pour parler de ce que l'on pourrait faire avec les nanotechnologies. Donc ça se développe, ça, de plus en plus, oui. Simplement parce que nous n'avons pas de connaissances scientifiques particulières, mais nous avons juste le vernis suffisant pour pouvoir étayer nos bouquins, mais à partir de là, de raconter des histoires et de montrer comment on peut détourner les inventions que eux pensent utilisables dans un seul sens et qu'ils croient être le bon. La preuve aussi, pour rebondir un peu sur le reste, c'est qu'à l'époque, on avait un alibi pour ne pas être coincé, donc on se débrouillait de fabriquer des alibis, comme quoi, dès le départ, c'est une sorte de guerre missile-antimissile entre la police et les brigands. On aurait pu penser que dans le futur, il suffisait de se faire cloner pour ensuite envoyer le clone commettre son forfait. Bon, le problème, c'est qu'il sera forcément identifié par son ADN maintenant, c'est foutu.
Oui, pour revenir au numérique et répondre peut-être à compléter la réponse d'Isabelle Curé par rapport à ce que vous disiez. Je travaille tous les ans assez régulièrement avec des étudiants d'une école d'ingénieurs sur Valence. Donc une des spécialités sont les relations avec les téléphones portables. Je vous assure que n'importe quel étudiant de quatrième année est capable de rentrer sur vos PC à partir de votre Livebox sécurisé ou non, de déverrouiller vos téléphones portables à distance, de les faire parler à votre place, et ça de façon non pas très simple. Attention, c'est quand même des ingénieurs, et ils ont un peu travaillé pendant 5 ans pour y arriver, mais pour autant, ces savoir-faire, logiquement, sont entre les mains de tous les gens qui conçoivent les systèmes et qui, en les concevant, conçoivent aussi la possibilité de les détourner ou pas. Donc le premier danger, et ça on pourra le réévoquer, et s'il y a une alerte à lancer, c'est d'être vigilant par rapport à vos traces numériques. Moi, ça m'étonne toujours que les consommateurs aient accepté d'avoir la géolocalisation sur leur portable. Et en fait, si vous avez tous des portables avec géolocalisation, c'est parce que vous l'avez souhaité. Vous n'êtes pas victime de vos choix de consommation. La preuve en est, c'est que je suis capable, avec mon seul téléphone et une toute petite manique, de vous dire combien d'entre vous ont leur téléphone branché, d'une part, et d'autre part, lesquels ont leur géolocalisation branchée. J'ai une amie qui faisait la chasse au téléphone portable pour sa fille, et elle pique sa fille 3 fois en un mois avec un téléphone portable. La fille se dit « Mais maman est trop forte !» C'est pas très compliqué, elle branchait Wi-Fi, recherche de portable, et s'il y a un portable qui apparaissait à proximité immédiate, c'est forcément sa fille qui en avait un parce que la fille n'avait pas déconnecté de Wi-Fi. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Je vous redonne la parole. Comment est-ce qu'à partir des sciences et des techniques du quotidien, on envisage les détournements? Puisque vous êtes justement susceptible d'être interrogé, et ça j'en avais déjà entendu parler, par rapport aux nanotechnologies qui sont véritablement aujourd'hui embryonnaires et qui sont à l'origine d'un tas de fantasmes, comment est-ce que vous pouvez imaginer finalement en représentant, et je pense en puisant un peu de l'inconscient collectif, comment est-ce que ces nanotechnologies peuvent être utilisées? Comment est-ce que vous procédez?
Comment on procède? On peut procéder en commençant par lire Science et Vie, on peut continuer à se documenter en allant plus loin. Je veux dire, de toute façon, les nanotechnologies, ça n'est que la miniaturisation de l'utilisation de nouveaux matériaux, notamment à base de carbone, qui permettent de créer des nanoparticules qui vont être utilisées, qui commencent à être utilisées en médecine déjà. Donc après, je pense que c'est simplement le fruit de notre imagination. On va détricoter, on prend un fil, on se dit tiens, ça c'est intéressant, et si c'était développé, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce genre de produit? Qui pourrait l'utiliser et quelles dérives ça pourrait amener éventuellement, quoi.
Je rebondis là-dessus parce que je n'ai pas encore lu d'extrait de Laurent, où lui va très loin. L'investigation se passera carrément au niveau du cerveau. Donc,
alors, juste pour référence, c'est aussi pour ceux qui connaissent le truc, c'est une sorte d'hommage, on va dire actuel, à un film des années 50 qui s'appelait Le Voyage Fantastique, qui consistait à miniaturiser des gens pour les envoyer dans un corps humain. Voilà. Donc moi, ils ne sont pas miniaturisés, mais par contre, les nanotechnologies permettent autre chose.
Alors, cette nanotechnologie, dans son roman, s'appelle des guillons. C'est donc l'ordinateur biologique, si l'on veut. Je chausse le masque, puis j'active l'interface. Le guillon s'étale sur ma tempe et court-circuite mon nerf optique. Vertige dans un néant gris. Je lance une sonde mentale le long de l'axone artificiel et j'effleure les commandes du programme principal. Implantation. Je me fonds en douceur dans l'alcôve de contrôle du superviseur. Ouverture des capteurs sensoriels. Je pivote pour découvrir mon environnement. Je baigne dans un liquide vitreux, sous la voûte de la capsule, une gigantesque caverne artificielle à cette échelle. Dans les abysses, la carotide m'apparaît comme un fleuve de lave pulsatile, rouge et brûlant, sous une paroi transparente. Une horde de nanobiones crustacés carbonés à l'échelle du millionième de millimètre se masse devant la caverne du trocar d'injection. Ils sont cernés par des myriapodes ondulants qui font office de chiens de berger, maintenant la cohésion de ce banc capricieux. Je serai donc la bergère. Je vérifie l'enregistreur qui gardera une trace de chaque impulsion copiée dans le cerveau de Sinjay. Je formule ensuite ma requête, en image simple, à destination des myriapodes. Le visage de Lucius, les diamants, l'impératrice, les hommes du commando. J'y ajoute Anton Hammer, tous les responsables de la réception, à commencer par Otto Hitler et Olga. Puis, après une hésitation, j'insère discrètement le visage d'Arthur Mick, le sinistre directeur Doom Dumo. En place, dis-je à Louis, je vais rester en retrait avec le superviseur dans le polygone de Willis. Cela me permettra de vous faire un rapport en direct et au cas où d'éviter un nouveau choc. J'injecte l'isotope. Le biseau de l'aiguille s'enfonce dans l'artère et le produit radioactif se répand dans la circulation, dessinant en quelques secondes la carte en trois dimensions de la vascularisation cérébrale de Sinjay. Repérage complet effectué. Je lâche les nanos. Ouverture du trocar principal. La pression intracapsulaire nous propulse dans la lumière du vaisseau. Nous arrivons très vite dans le cercle artériel de la base du cerveau et les crustacés se séparent en troupeaux, chacun encadré par un ou plusieurs myriapodes, pour atteindre leurs objectifs respectifs. J'ancre le superviseur dans cette zone stratégique et je suis la progression des colonnes à distance raisonnable, aidée par la carte vasculaire sur laquelle j'ai reporté mes traceurs. Quelques groupes suivent les artères cérébrales en direction des aires visuelles et auditives, mais les deux bataillons principaux s'engouffrent dans les artères choroïdiennes antérieures, dont ils viennent tapisser les parois à hauteur des hippocampes. Nous y sommes. Des dizaines de milliers de filaments monomoléculaires s'insinuent entre les cellules et se fixent aux neurones. je réitère mes ordres. J'interdis la méthode classique consistant à carboniser des secteurs jugés inutiles pour gagner du temps. Pas de contestation pour l'instant. Les myriapodes sont très vite submergés de parcelles d'informations qu'ils comparent à mes requêtes, rejettent ou conservent, avant de déplacer les nanobiodes pour compléter un fragment d'image ou explorer d'autres circuits de mémorisation. Peu à peu, un schéma des hippocampes se dessine sous les artères. Deux cornes animées de pulsations lumineuses figurant le déplacement des influx nerveux le long des axones. Des boucles de neurones apparaissent, des voies de mémorisation, des souvenirs, la matière des songes. Alors, là, on est presque dans l'exploration du cerveau. Ça a l'air d'être vraiment des investigations pratiquement encore impossibles à imaginer. Mais je ne sais pas si vous avez vu récemment aux infos, donc disons il y a moins d'un mois, comme quoi on a pu voir les premières images dans le cerveau de quelqu'un. Alors évidemment, il a une résine sur la tête avec énormément de capteurs, et ces images sont les images qu'on lui a présentées au préalable, enfin plusieurs personnes. Il y avait donc un humain, une silhouette humaine, il y avait un aigle, il y avait un lion, diverses choses. On voit après la photo de départ et on voit le résultat, c'est très 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 grossier. À la limite même, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance. Par moment, effectivement, l'aigle qui vole, on voit quand même une sorte de trait au milieu de l'image, et on se dit que là, il y a quand même quelque chose. Il y a un début d'image. Si maintenant nous pouvons avoir un début d'image, bon ben, vous allez voir, ça va très vite après, dans 20, 30, 40 ans, on commencera peut-être un petit peu mieux lire dans le cerveau certaines des images. Et alors là, les histoires de science-fiction, de police de la pensée, ou de lorsque l'on pose un nom, vous connaissez cette personne, non, je ne la connais pas, alors que l'image s'imprime dans le cerveau, ne sera peut-être pas tout à fait impossible. Donc, pour le moment, nous pouvons encore rêver, et puis on verra si ça restera de la science-fiction ou pas. En tout cas, c'est parti.
Oui, je vous confirme que parallèlement, les deux grandes révolutions technologiques, enfin, technoscientifiques, des 10 dernières années sont d'un côté les technologies de l'information, donc le numérique, et de l'autre les neurosciences. Il y a par contre un élément qu'on a tendance à négliger, c'est qu'aujourd'hui, par la psychologie, et je vous dis aujourd'hui, il y a très longtemps, la psychologie permet ce genre d'application de façon beaucoup plus fiable et de façon tout à fait éprouvée. Là, en l'occurrence, par d'autres services plus ou moins spéciaux et quelques agences. Ma question est, est-ce qu'il y a des psychologues et quels sont leurs rôles à la police technique et scientifique, si ce n'est pas top secret?
Alors, on ne travaille pas sur la criminologie. J'en ai parlé tout à l'heure avec Odile. Nous, ce qu'on fait, c'est de la criminalistique. Donc on ne fait pas appel à des psychologues pour résoudre des enquêtes. Ça peut se faire de manière ponctuelle, mais en tout cas, on n'a pas de psychologue recruté pour travailler, pour faire des profils ou autre. Il y a un peu de profilage qui se fait au sein de la gendarmerie nationale, mais pas au sein de la police nationale. Alors on a des psychologues, mais ce sont des psychologues de soutien opérationnel qui sont là pour aider les policiers à eux-mêmes surmonter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer par rapport quand même aux situations difficiles qu'ils vivent au quotidien. Ça existe, il y a un petit réseau, on va dire, de psychologues, parce que je crois qu'il y en a une soixantaine en France, donc vous voyez, c'est pas beaucoup, mais on n'a pas de profiler comme on peut voir dans certaines séries télé également, ou peut-être dans certains romans. Pour l'instant, ça n'existe pas dans la police nationale.
Alors justement, moi j'ai eu envie dans mon roman, en 1920, de parler aussi de cette science qui à l'époque était toute nouvelle, la psychologie, la psychiatrie. Et puis ça m'a permis en plus de créer un personnage féminin, parce que quand on écrit un polar qui se passe dans les années 20, les femmes, elles ne travaillaient pas dans la police, elles travaillaient d'ailleurs dans très peu d'endroits, elles n'avaient pas beaucoup le droit. Sauf d'être ouvrière et mère au foyer, femme au foyer. Donc du coup, j'ai créé un personnage, je me suis inspirée de la première femme psychiatre qui a travaillé justement sur les comportements criminels. et ça m'a permis de me documenter à nouveau sur cette science et de découvrir qu'avant ça, justement, on en parlait là de la phrénologie, la science des crânes, qui a été à la fin du 19e siècle, qui était aussi une révolution. Alors, Edmond Locard, la Cassagne, c'est pas qu'ils mettent ça par terre, mais ils étaient contre. La Cassagne, lui, il disait toute société, elle est criminelle qu'elle mérite. Et donc, ça n'a rien à voir avec. C'est Lombroso, l'italien, le célèbre italien phrénologiste, qui a fait cette. Tout le monde a déjà vu ça, d'ailleurs, ce dessin, cette tête, ce crâne, avec toutes les petites cases découpées. Donc, la bosse des maths, c'est d'ailleurs de là que ça vient. Et donc, la bosse du crime aussi. Voilà. Donc, à cette époque-là, on en était là, on cherchait à évoluer. C'est aussi pour répondre un peu à la question que posait Madame tout à l'heure, à savoir est-ce qu'on peut inspirer des criminels. Personnellement, je suis plutôt inspirée par eux. C'est-à-dire, je suis une grande lectrice non seulement de polar, mais de faits divers. Et j'ai l'impression d'être même presque en deçà quoi, de la réalité. Quand j'écris des fictions, que ce soit au niveau du roman, à la télé, j'en parle pas parce qu'il y a une censure qui est terrible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, parler de pédophilie, on ne peut pas mettre en scène des enfants délinquants, enfin pas trop. Enfin,
pas trop délinquants ou pas trop d'enfants ?
Pas trop d'enfants délinquants, il ne faut pas les montrer, les enfants criminels encore moins, enfin voilà, il y a quand même plein de sujets tabous. C'est vrai que la Cassagne, moi ça me fait réfléchir, quand la Cassagne il disait « toute société elle est criminelle qu'elle mérite », moi je parle là d'un criminel, je suis partie sur un tueur en série, on est en 1920, comment ils faisaient à l'époque, comment ils ont fait pour coincer un tueur en série. Je suis partie d'éléments qui ont vraiment existé, c'est-à-dire, je ne veux pas dévoiler, mais même l'arme du crime, etc. Il y a des lecteurs après qui sont venus me voir ou sur Internet qui me disent, mais waouh, et j'ai la photo, je me suis inspirée de choses tout à fait directes. Donc, moi, je suis plutôt inspirée par les criminels, j'espère que je ne les inspire pas, mais voilà.
Réaction dans la salle. On a un petit effort pour me laisser passer rapidement, merci.
Alors, lorsque vous dites que certains sujets sont tabous, est-ce que vous pensez que si vous les présentez à un éditeur, il vous dira non ?
Alors là, je parlais de la télé parce que comme je suis scénariste, je travaille aussi pour la télé. Non, l'éditeur, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une vraie. Mais je pense pas. En tout cas, là, moi, j'ai eu une vraie liberté, une totale confiance. Il m'a laissé, je pense qu'il m'a laissé traiter, parler de mon sujet. Je parlais d'un tueur en série, on reste dans un polar, c'est pas un thriller, c'est un polar historique. Donc, il y a tout l'univers, il y a toute l'ambiance. Mais effectivement, c'est un tueur en série. Alors que à la télé, c'est plus compliqué. Un personnage, les Américains le font avec Dexter, avec des personnages, mais en France, on n'en est pas encore là, je crois pas, hélas. Par exemple, juste un exemple, j'avais proposé un sujet sur le Tour de France, sur le dopage, qui se passait justement, c'était un premier cas de dopage qui avait été annoncé en 1924. On a refusé, le producteur, tout ça, était très enthousiaste, et puis à la télé, à la chaîne, ils ont dit au dernier moment, non, c'est pas possible, on ne peut pas, hors de question, de parler du dopage. C'était un cas de dopage qui se passait sur le Tour de France de 1924. Et là, on m'a fait comprendre que c'était pas possible, par exemple.
D'autres questions publiques ?
Ce qui est complètement ridicule. Complètement. La télé en France...
Ah non, mais c'est grave, franchement.
Alors, puisque on peut en effet aborder les limites du polar dans sa créativité ou dans la capacité des diffuseurs ou du public de les accepter. Est-ce que les écrivains, les auteurs vont trop loin ? Et la question s'adresse à Isabelle Curé. Est-ce que la réalité est souvent pire que la fiction ?
Je ne lis pas non plus des romans policiers tous les soirs. Je peux dire que la réalité, quelquefois, peut nous surprendre quand on intervient sur les scènes de crime. ou les scènes d'infraction, parfois sur la violence et autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça aussi que sur certaines affaires, il y a besoin de débriefer les personnes qui interviennent. Et qu'actuellement, nous, on travaille aussi sur le fait de soutenir les personnels qui interviennent au quotidien sur les scènes d'infraction. Quand on regarde la télé, bon, pour parler des séries, des experts et autres, j'en parlais avec votre collaborateur tout à l'heure, donc, qui est sur Zoom, sur la police scientifique, sur l'exposition qui est dans notre salle, qui reçoit des jeunes et qu'il a l'impression un petit peu que certains fantasmes, entre guillemets, sur la profession. Il faut quand même savoir qu'entre ce que l'on voit à la télé ou le métier donc, fait appel à la fois au côté judiciaire, au côté scientifique, et ce que l'on peut vivre au quotidien, il y a quand même une grande différence. Un cadavre que l'on voit à la télé, bon, ben, c'est un cadavre. Le cadavre que l'on découvre, il faut savoir quand même que ce n'est pas forcément très reluisant. Un cadavre, ça ne sent pas bon, hein, pour rester très, très light dans les propos que j'utilise. On a des images, on a des odeurs, on intervient sur l'assistance des médecins légistes lors des autopsies. Tout ça, ça fait quand même une charge émotionnelle qu'il faut savoir évacuer, qu'il faut savoir vivre. Quelquefois, ben, ce sont des enfants qui sont victimes de maltraitance, qui peuvent être également enlevés, violés, retrouvés, ben, comme on disait tout à l'heure, calcinés. Tout ça, il faut savoir quand même que la police, l'enquêteur, également le policier scientifique donc, qui intervient, ben, il faut arriver quand même à le vivre au quotidien. Des fois, on se dit, mais comment peut-on en arriver là, hein? Un corps qui est lardé de 50 coups de couteau, c'est pareil, aussi un acharnement. Comment quelqu'un peut s'en prendre à une autre personne, à un autre être vivant, et en arriver là? Donc oui, quelquefois, c'est pas facile. On peut être aussi, on est amené à signaliser, donc prendre des empreintes, prendre en photo ben, un tueur, par exemple. Moi, ça m'est arrivé de devoir signaliser quelqu'un qui avait donc tué un autre être humain, on va dire. Pour la première fois que ça m'arrivait, en tout cas, ça m'a fait une drôle d'impression. Parce que tout simplement, cette personne n'avait aucun remords. Et que j'étais quand même obligée d'avoir une proximité très importante avec lui, puisque je lui ai pris la main, quelque part, pour prendre ses empreintes. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas si faciles que ça non plus à appréhender. Donc c'est vrai que quand on voit les jeunes qui fantasment sur les métiers, il faut aussi se poser quand même les bonnes questions. Ce n'est pas vraiment comme à la télé. Derrière, il y a des êtres humains. Il y a des victimes qu'il faut prendre en compte. Il faut faire preuve d'empathie. Hein. Notre métier, c'est un métier de service public. On est au service des victimes. Et pour autant, on est confronté aux délinquants, donc aux victimes auxquelles on doit apporter quand même un certain réconfort et des réponses à leurs questions. Puis après, il y a effectivement toutes les scènes difficiles que l'on rencontre. Voilà, alors après, est-ce que ça dépasse la fiction? Je ne sais pas. Il y a certainement des romans et des films qui sont déjà d'un bon niveau dans le gore ou autre, mais quelquefois la réalité, elle n'est pas belle non plus, c'est sûr.
Oui, mais à l'appui, je dirais que le réel est souvent beaucoup plus sordide. J'ai justement écrit du gore, j'ai parfois été très loin dans mes récits. Je sais aussi qu'il y a certaines choses que je ne raconterai pas et qui se réalisent. Je sais aussi que lorsqu'on est auteur, n'importe quoi, même dans le sordide, est mise en scène. C'est d'abord une écriture qui est faite pour s'adresser à un lecteur afin de le mettre en condition, afin de le faire frémir ici, de l'intriguer à un autre endroit. Il s'agit donc d'une mise en scène avec des détails que l'on va garder, des détails que l'on met de côté, et avec un déroulement quand même dans le timing qui est beaucoup plus proche qui n'est vraiment qu'une fiction, et ça ne se passe pas du tout comme ça dans la réalité. Oui, il y a des questions d'odeur, il y a des questions de scènes vraiment insoutenables et sur lesquelles il faut parfois revenir, il faut rester. Ça prend aussi un certain temps, c'est pas le même timing et c'est souvent beaucoup plus sordide. Lorsqu'on veut coller au réel, par moment, je crois que on arrête d'écrire ou alors on se met à utiliser beaucoup d'euphémismes ou de, disons, une manière d'écrire le réel qui ne soit pas trop cru.
Moi, je crois aussi, pour rebondir sur Claude, que en fait, nous, en tant que romanciers, on est là pour raconter des histoires, on est aussi là pour donner du rêve, pour donner à réfléchir éventuellement, mais pour donner la matière à évasion pour nos lecteurs. Et je pense qu'effectivement, il y a une énorme différence entre le réel et la fiction. On pourra reciter Dexter. Dans Dexter, le personnage est mignon, séduisant, et puis il a quelque part, ils l'ont ils lui ont donné une mission qui est relativement honorable de tuer des criminels, qui humanise un peu, on va dire, les serial killers. Mais le propos est délicat, on est toujours sur la lame. Et que moi, de ce que je peux en lire, même si le polar n'est pas ma spécialité, je m'y intéresse aussi, et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que les personnages que nous, on va créer, à qui on va donner un charisme, soit un charisme démoniaque, soit lui donner quelque chose de plus délicat comme pour Dexter, ils n'existent pas dans la réalité. Je pense qu'ils n'existent pas. Les criminels, globalement, peuvent avoir des raisons, mais globalement, il y a toujours quelque chose de monstrueux dans le crime. Et des personnages qui vont être comme Hannibal Lecter, les génies du mal, je pense que c'est, si ça a existé, c'est rarissime. Ou alors, ils ont fait d'énormes dégâts, les génies du mal. Voilà.
Je vais laisser une dernière fois la parole au public avant de conclure.
Je voudrais juste rajouter, parce qu'on parle justement des crimes, des criminels, du polar. C'est très dur en fait. Moi je me rends compte que c'est très dur d'écrire un polar aussi, surtout quand c'est une histoire sombre, noire. Il y a le crime et puis le polar c'est la résolution de l'enquête. Donc en tout cas moi ce qui m'intéresse et ce qui intéresse mes personnages là c'est aller chercher qu'est-ce qu'il y a d'humain justement derrière le crime. Et donc le criminel, quelle est son histoire pour en arriver là, parce qu'effectivement commettre un crime c'est quand même c'est pas rien. Et du coup moi je me suis confrontée justement à raconter d'une manière littéraire, moi qui avais l'habitude d'écrire des scénars moi je suis une grande lectrice de polar entre autres, mais aussi une cinéphile. Moi j'ai fait une école de cinéma, donc on parlait tout à l'heure de choses, sujets tabous à la télé, au cinéma il n'y a pas ça, en tout cas pas autant, et dans la littérature non plus. Mais après justement il faut arriver à se lâcher quand on raconte l'histoire d'un tueur en série. En tout cas quand il y a plusieurs crimes qui a des connotations un peu sexuelles, il faut comment justement ne pas choquer le lecteur, employer les mots, comment rester littéraire, tout ça c'est notre travail. Et, mais c'est pas facile, c'est vrai que moi je rencontre des auteurs qui me disent je n'y arrive pas, j'arrive pas à écrire des choses trop noires, parce que c'est vrai qu'il faut un peu c'est sûr qu'utiliser les mots, enfin chaque mot compte, et que c'est délicat quoi, c'est vrai que c'est délicat, donc c'est dur aussi parfois d'être dans la peau comme ça d'un criminel, d'être dans la peau d'un flic qui rame, il y a des fois c'est un peu laborieux. Voilà.
Une dernière remarque.
Oui, moi je voulais.
Non, je vous en prie.
Une dernière remarque parce que c'est vrai que là on a basculé sur les criminels, le crime, tout ça, alors qu'en fait à la base c'était les nouvelles technologies. Et moi je pourrais faire une petite remarque, c'est que quelque part ces nouvelles technologies, elles sortent le thème purement corporel, le côté gore justement, le côté sang, macabre, odeur et tout ça, en lui donnant un vernis, quelque chose d'immatériel, quelque chose de très virtuel. Et ça peut être dangereux aussi, ouais, je pense. Ouais. On en revient à ces gens qui, au crime qui arrive maintenant, bon, tirer du jeu vidéo, ou tirer de, même si on en fait beaucoup, à mon avis, trop par rapport à ça, mais qui existent parce que ça n'a plus de sens. Il y a la virtualisation du crime qui est un danger, je pense aussi.
Oui, effectivement, on nettoie la scène, on met le crime dans le labo. Il y a un petit peu de déshumanisation aussi là, puisqu'on s'adresse moins peut-être à la personne pour élucider une affaire que à ce que l'on a sous un microscope.
Toujours utile en fait.
Bien sûr.
Oui, magnifique.
Non mais je voulais juste quand même préciser, parce qu'en discutant avec des techniciens de l'INPS ou de la TPS, en se documentant, en rencontrant des gens, moi je vois que il y a la science, mais quand même, ça ne fait pas tout. Il reste quand même très, très prudent. Là, on est à l'apogée de l'ADN, etc. Évidemment que ça a été un bouleversement considérable dans les enquêtes, mais justement, il reste quand même tout ce côté humain. Et il me semble que c'est primordial dans les enquêtes, encore un petit peu quand même.
Oui, et puis dans la vraie police scientifique, dans les laboratoires, on n'a pas toutes les bases de données que l'on voit dans les séries télé. C'est parce qu'on va retrouver une fibre sur une scène de crime qu'on va retrouver le propriétaire de la fibre. Nous, on travaille toujours par comparaison. Donc, on va comparer la fibre. Si on retrouve un suspect, qu'on retrouve, par exemple, un pull ou un tapis ou enfin quelque chose chez la personne, et on va travailler par comparaison. On n'a pas une base de données qui nous pouvez nous dire, ben, la fibre, elle provient de telle pub, qui a été achetée par telle personne, dans tel endroit, tel jour, à telle heure. Ouais. Ça, c'est vraiment dans la pure fiction, on n'en est pas du tout là. Donc, tout à l'heure, on parlait un petit peu des dangers des fichiers. Enfin, on n'en est pas du tout là dans la police française. On a peu de données, de bases de données actuellement, si ce n'est les fichiers d'emploi d'ADN. Et encore, pour être dans les fichiers, il faut avoir un jour fait quelque chose, puisque les fichiers ne sont utiles que dans les cas de récidive. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose de très important aussi.
D'ailleurs, au départ, la police scientifique et Bertillon, ils ont travaillé pour justement éviter les récidives, essayer de choper les récidivistes. En tout cas, au départ, c'était ça, la police scientifique. C'est comment coincer les récidivistes. C'est, voilà.
Qui n'était plus marqué au fer rouge, les prisonniers n'étant plus marqués au fer rouge depuis
1824,
après la Révolution. Donc, il fallait essayer de... Avant, on enregistrait les gens sous une identité qui était donnée. Donc, on pouvait bien donner n'importe quelle identité. On n'avait aucun moyen de savoir si la personne elle avait déjà été interpellée pour un autre fait. Donc, le but, c'était effectivement d'identifier les récidivistes. Bon, après, on s'en est servi toujours pour la même chose, de toute façon, encore une fois. Quelqu'un qui n'est pas connu, on peut retrouver son ADN, on peut retrouver ses empreintes sur une scène de crime. Si on ne le retrouve jamais, s'il ne fait plus jamais parler de lui, qu'il n'est pas réinterpellé pour une autre affaire, on ne l'identifiera pas.
Oui, Edmond Locard, il disait bien, lui, ce qu'il voulait, c'était prouver la présence d'un homme sur le lieu du crime. C'est vraiment ça, au départ. Donc, c'est ça, la police scientifique.
Est-ce que l'avancée de...
Et encore, je dirais que prouver sa présence ne fait pas pour autant de lui l'auteur des faits.
Exactement. Ouais. Pardon.
Pardon. La parole est ici.
Je voulais savoir si l'avancée, justement, et les progrès de la police scientifique ont fait changer la façon de commettre un meurtre.
C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est sûr que les délinquants, ils sont comme tout le monde. Ils écoutent la radio, ils regardent la télé, ils lisent les journaux. Et à une époque, on a beaucoup parlé des empreintes digitales. Hein, ça correspond à peu près à la fin des années 90, on va dire, au début des années 2000, on parlait tout le temps des empreintes digitales. À un moment donné, ben, les délinquants, bien compris que s'ils mettaient des gants, ils laisseraient beaucoup moins leurs empreintes digitales. Donc à une époque, on retrouvait carrément, on nous narguait, enfin moi je l'ai vécu, hein, sur des vols à la roulotte, on avait une rue de voiture qui était roulottée, on retrouvait les gants à la jeter sous les roues de la dernière voiture. Donc c'était bien de dire, ben voilà, on avait des gants, c'est pas la peine que vous cherchiez à la limite. Donc ils nous narguaient quelque part. Pour autant, ben, c'est vrai qu'on peut aussi faire quelque chose sur les gants. Bon, voilà. Bon, maintenant, on a d'autres moyens de faire. Sur l'ADN, comme le disait Odile tout à l'heure, il y en a qui s'amusent à mettre un mégot sur une scène de crime, mégot qui ne leur appartient pas, de mettre un préservatif avec du sperme récupéré dans une poubelle sur un lieu de viol. C'est pour ça que la police scientifique, c'est une aide à l'enquête, et ce n'est pas la preuve absolue. Quelqu'un ne sera pas condamné uniquement par rapport à un élément matériel retrouvé sur une scène de crime. C'est un faisceau d'éléments, c'est l'enquête judiciaire aussi qui fait qu'on va pouvoir inculper éventuellement quelqu'un, que le magistrat va se baser sur son intime conviction. C'est toujours la règle qui régit le droit français, c'est l'intime conviction. Si un jour vous êtes juré aux assises, on vous demandera de juger en votre intime conviction. Vous aurez les débats contradictoires pour vous faire votre propre opinion. Donc la police fait son enquête, voilà, mais à partir d'un faisceau de preuves. Il n'y a jamais un élément qui fait condamner quelqu'un. Et quand on parle de l'ADN, on ne faut pas oublier non plus qu'on travaille à charge et à décharge. Il y a des fois des personnes qui sont mises en cause dans une affaire et dont on est innocente par rapport aussi à l'ADN. Ou des empreintes ou des
affaires. Avec voilà. La gamine.
Voilà, pour la jeune fille, la semaine dernière, c'était le cas. Voilà, l'ADN a permis d'innocenter quelqu'un et
par un éventuel. Qui avait un casier.
Voilà, tout à fait. Et par contre, la personne qui s'est présentée a demandé à ce qu'on lui prenne son ADN aussi, parce que, bon, voilà, c'est un exemple effectivement d'actualité.
La question est ici.
Est-ce que vous pensez que la cybercriminalité et le monde virtuel vont changer votre façon de faire ? Dans l'avenir.
Notre façon de...
Votre façon d'écrire, est-ce qu'elle va changer au fur et à mesure que...
C'est ce qui me semblait.
Ça me paraît, oui, évident. Moi, justement, je réfléchis à ça en tant que scénariste, comment aussi écrire quelque chose enfin, sur la cybercriminalité, enfin, mais je vais plutôt laisser la parole aux auteurs de SF.
Moi, personnellement, je dirais qu'il est déjà anticipé. Donc, la cybercriminalité, elle est partie intégrante dans ce que j'écris. Donc, on a déjà fait ce travail de... De toute façon, on n'est pas les premiers à l'avoir fait. Je veux dire, il y a des gens qui sont allés beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle le cyberpunk, des gens comme Richard Morgan, avec Carbone Modifié, par exemple, qui est un monument un polar, justement, dans un monde où on a des piles corticales et on est mis en pile, si tu veux, et on change de corps en passant de l'un à l'autre. Il y a pourtant des meurtres qui existent dans cet univers. Il y a des gens qui ont déjà beaucoup travaillé, alors des fois ça va très loin, on est d'accord. Mais on peut venir en rebrousse. Rebroussant jusqu'à pas loin, comment ça pourrait évoluer. On l'a déjà fait, oui. On est dedans, on est en plein dedans.
Est-ce que ça change la manière d'écrire? On change de sujet, on traite un autre sujet, mais on reste avec sa manière de raconter, de poser une intrigue. L'écriture, le style peut parfois être influencé parce qu'il y a... Mais ça, ça n'a pas seulement à voir avec la cybercriminalité, ça a à voir avec n'importe quelle autre technologie et peut-être avec l'écriture spécifique de la science-fiction. Il y a des gens qui diraient qu'il n'y a peut-être pas d'écriture spécifique à la science-fiction, mais nous sommes quand même obligés de mettre en scène des histoires faisant appel à des concepts, à un vocabulaire technique qui n'est pas évident, qui n'est pas donné à tout le monde. Et on ne peut pas sans arrêt arrêter son histoire pour dire « attendez, je vais vous faire un petit cours ». La difficulté pour l'auteur de science-fiction, c'est de raconter quelque chose qui soit immédiatement compréhensible à la personne, un petit peu par percolation, si on veut, sans que ça se voit, sans arrêter l'intrigue, et que lorsque l'on dit qu'il allume la télé en zappant sur les chaînes et qu'avec son briquet, il allume une cigarette, on ne soit pas obligé de dire qu'il s'agit de brins de tabac qui sont séchés, roulés, découpés en petits morceaux, mis dans une feuille de papier et que l'on inhale parce que même si ça ne fait pas du bien à la santé, c'est assez agréable, voilà, et que le briquet c'est une pierre avec du gaz à l'intérieur, l'étincelle permettant de... Bon, on est obligé de raconter tout ça en science-fiction, donc il faut le faire d'une manière très discrète. Maintenant que l'on parle de cybercriminalité ou autre, je ne pense pas que ça change spécifiquement la manière d'écrire.
Tu as parfaitement raison, c'est moi qui avais mal répondu. Effectivement, tu me posais la question de la manière d'écrire. Non, les thèmes. Par contre, les thèmes évoluent. De toute façon, on colle en science-fiction, on colle aussi bien aux thèmes de société, que ce soit l'écologie, que ce soit la cybernétique, que ce soit la place de l'homme dans l'univers. Voilà, c'est à ça qu'on s'attache, nous, en science-fiction.
On va, si vous le voulez bien, clore cette table ronde, remercier nos intervenants, Odile Bouillet, Isabelle Curé, Claude Ecken, Laurent Pougeois. Je vais leur donner la possibilité de dire un dernier mot pour conclure. Je voudrais pour ma part simplement vous inciter à vous renseigner sur les traces numériques. Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, mais on va organiser un cycle de conférences sur toute la Drôme l'année prochaine. Qui va s'appeler Web 3.0, qui intégrera entre autres les traces numériques, notamment en travaillant avec des collèges et des lycées, mais qui sera également ouverte au grand public. Je vous rappelle enfin l'implication de notre médiateur, Patrick Scientifique, qui n'est pas policier scientifique, on lui demande tous les jours. L'atelier qui est présenté, salle Charles Michel, est animé donc par Cassiopée. Il a été construit sous le contrôle extrêmement précis et amical d'Isabelle Curé. C'est l'exposition référente aujourd'hui pour présenter les activités de la police technique et scientifique, et je lui remercie d'avoir beaucoup travaillé avec nous. Je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie.
On va vous remercier de votre attention, voilà. Je pense. Voilà. On espère qu'on a répondu un petit peu à vos questions. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
Voilà, tout à fait. Merci à vous.
De nous avoir supportés.